Et dans cette édition, on ira au port de pêche où beaucoup de travaux sont prévus, le détail dans quelques minutes. On parlera aussi économie avec le forum des jeunes entrepreneurs et pour terminer, ce projet à Mayao où une école veut agir pour protéger son lagon. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
On va au port de pêche où le pays a présenté sa feuille de route pour les futurs aménagements.
Et beaucoup de choses vont changer. Objectif, moderniser l'outil de travail, rénover les installations, les ateliers, les chambres froides. Levier économique essentiel du pays, l'activité de pêche est en constante progression, plus 70% en 7 ans selon le pays. Mais le marché local atteint ses limites. Il faut désormais penser à l'export et à la transformation du poisson et donc il est temps de procéder à plusieurs chantiers. Le chargé de mission du port autonome, Laurent Goulet, donne le programme.
Retrouver des capacités de production de glace qui aujourd'hui sont défaillantes. Donc on a 440 millions pour démolir puis reconstruire des tours à glace. Ensuite, on améliore les conditions d'accueil des navires. On a un programme en cours de rénovation complète de tous les linéaires de pontons. Puis, à terme, d'ajout de pontons supplémentaires et de construction de quais supplémentaires au port de pêche. On conditionne l'ajout de pontons, de linéaires supplémentaires pour l'accueil des navires au retrait des navires épaves. Aujourd'hui, on a 82 navires actifs, on a 15 épaves. Ensuite, on a une remise aux normes de l'assainissement.
Et il y aura aussi la valorisation des déchets organiques, la rénovation des bâtiments de mariage, la construction d'un nouvel hangar pour la transformation. Coût total de ces chantiers, 1,8 milliard de francs. Ce n'est pas la première fois que des travaux sont envisagés au port de pêche, mais cette fois, c'est la bonne, assure Laurent Goulet. Voici pourquoi.
Le port autonome a, entre guillemets, récupéré et affectataire du port de pêche depuis janvier 2024 seulement. Avant, c'était pas nous. Peut-être que ceux qui ont préparé les schémas directeurs précédents ne maîtrisaient pas le foncier périphérique. Nous, on le maîtrise. Donc on sait ce qui est possible, ce qui est crédible et ce qui est vraiment faisable. On a la capacité financière de financer le schéma directeur sur fonds propres. Et surtout, encore une fois, on maîtrise le plan d'eau, on maîtrise désormais le foncier au port, mais aussi tout autour. Donc on sait ce qu'on peut faire.
Le chargé de mission précise aussi qu'il n'a pas été question de, je cite, « voir trop loin ». Les opérations sont prévues sur 5 ans avec des objectifs atteignables et des opérations intéressantes pour la filière de pêche. Et puis ce changement aussi à prévoir pour le public, les traiteurs qui vendent des plats à l'intérieur du port vont être réinstallés dans les anciens locaux de la DEPAM à l'extérieur. Donc selon le pays, il y a beaucoup de vols et de trafic au port de pêche et il s'agit d'y mettre un terme. Il faudra bientôt montrer patte blanche pour pouvoir rentrer.
Économie toujours avec le forum des jeunes entrepreneurs qui s'est terminé hier.
Une première édition très encourageante, a dit la directrice de l'agence de développement économique Hinano Teanotoga. 300 personnes ont participé à ces deux jours, un public divers qui était à la recherche de bons contacts avec les banques, les financeurs et les organismes d'accompagnement. Un forum qui s'est clôturé par un face-à-face avec Moetei Broverson et le ministre de l'économie Warren Dexter et les questions ont fusé.
Ça allait de l'IA à la culture en passant par le chemisage de canalisation et les écloseries pour le secteur de l'aquaculture. Il y a des questions très précises qui ont été posées, notamment sur les aides qui sont disponibles. Des questions également sur la formation. Le développement de certaines activités économiques appellerait la mise en place de formations spécifiques qui n'existent pas aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'il manquait une ministre autour de la table, c'est Vanina. Mais c'est des domaines sur lesquels on va pouvoir intervenir.
Des formations dans l'entrepreneuriat, mais des formations aussi dès l'école. Plusieurs personnes ont demandé au président du pays de réfléchir à proposer un programme, des cours sur l'entreprise, la gestion financière. Et puis, il y a eu beaucoup de questions aussi sur le parcours administratif des porteurs de projets.
C'est la beauté de notre administration. On met tout dans des cases et quand il n'y a pas la bonne case, ben on ne peut pas avancer. Donc, il faut créer les cases. On a eu un jeune, par exemple, qui veut faire à la fois du Airbnb et des logements étudiants. Ben, ça, c'est un produit qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas l'aider parce que la case n'existe pas.
Alors simplifier donc toutes ces cases, mais c'est bien. Mais attention, le ministre Warren Dexter voit aussi des limites dans cet exercice. Il parle, lui, de mettre en place une structure d'accompagnement post-création d'entreprise. On l'écoute.
Au moment des simplifications administratives, je pense que l'exercice va atteindre rapidement ses limites. Il y a des moments où on pourra plus simplifier. Puis il y a ce concept qui a été repris par plusieurs intervenants, c'est la mise en place d'une structure qui les aide à leur développement. Ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent et puis après qui se cassent la figure dans les 3 ans qui suivent. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces créateurs d'entreprises pour les porter, les aider à monter en puissance. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs.
Warren Dexter qui était au micro de Caroline Perdry, le forum des jeunes entrepreneurs qui s'est donc terminé hier.
Un autre événement a été lancé aujourd'hui, cette fois pour l'administration.
Qui rime avec innovation, du moins sur le papier. Moëtta Ibroverson parlait de cases à l'instant. Deux mots donc que le pays cherche à faire rimer, innovation et administration aussi dans la réalité. L'édition 2025 de la Semaine de l'innovation publique se tient depuis hier et jusqu'à demain. Elle a été inaugurée par la ministre Minari Galnon qui a rappelé les principes essentiels de l'administration. Services renforcés, efficacité et proximité. Et thème de cette édition, oser sortir du cadre. Vaste programme. Les fonctionnaires auront une semaine pour trouver comment oser prendre des initiatives, imaginer autrement et collaborer différemment. Des ateliers, des conférences et des expérimentations sont prévus pendant ces trois jours.
Cet appel à manifestation d'intérêt de l'État qui veut créer une structure pour accompagner les associations.
Une structure qui devra mener la mission Guide Asso. Il s'agit d'un réseau de proximité qui propose un service gratuit d'information, d'orientation, de conseils et d'accompagnement pour que chaque association, quelle que soit sa taille ou son activité, puisse avoir des réponses à ses questions. Un réseau qui se structure progressivement partout en France et que l'État, avec le pays, cherche désormais à lancer en Polynésie. Avec cet appel à manifestation d'intérêt, l'État veut trouver des structures prêtes à s'investir dans ce réseau, trouver des acteurs aussi qui sont déjà engagés dans l'accompagnement des associations, mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins, favoriser la coopération avec les acteurs publics. La structure qui portera cette mission Guide Asso peut être une association, une collectivité territoriale ou un établissement public.
Dans l'actualité aussi, ce procès aux assises qui continue.
Oui, troisième journée aujourd'hui du procès du quinquagénaire accusé de viol et d'atteinte sexuelle sur mineurs. Trois adolescents de sa propre famille, âgés entre 12 et 16 ans à l'époque des faits en 2022. Hier, l'accusé a reconnu les faits et ses tendances pédophiles tout en incriminant les comportements de ses victimes, ainsi que son alcoolisation. Le procès se poursuit donc aujourd'hui. Le verdict sera rendu en fin de journée. L'accusé encourt 20 ans de prison.
On part à Mayao maintenant, où l'école primaire se mobilise pour protéger le lagon.
Ils se sont appelés les petits gardiens de l'océan. 22 élèves de l'école primaire de Mayao qui sont engagés dans un projet pour l'environnement. Au programme, création d'une nurserie de bénitiers, plantation d'arbustes pour protéger les plages et puis action de sensibilisation contre la pollution. Les explications du directeur de l'école, Jean Méziane.
En lien avec les coutumes déjà de Mayao, c'est-à-dire le raoui, on voulait mettre en place une nurserie de bénitiers. Parce qu'en fait, le bénitier, c'est une espèce qui n'est pas en danger, mais qui est assez rare sur Mayao, qui est aussi bénéfique pour le lagon, dans la filtration de l'eau et tout ça. C'est pour ça que cette idée a germé.
La zone d'implantation n'est pas encore définie, mais elle devrait se situer près de l'école. Et d'ailleurs, les enfants sont encore à la théorie pour bien comprendre les enjeux et mieux connaître le bénitier. La nurserie devrait concrètement voir le jour au début de l'année prochaine, mais le projet a donc bel et bien commencé, comme l'explique l'enseignante Tatiana Mahé.
Nous avons déjà commencé dans la cour de l'école. On a des bacs à sable où ils commencent à imaginer un peu les futurs herbiers et les futures nurseries qu'on pourra mettre en place dans notre lagon. Aussi, nous avons commencé à planter, parce que ça fait partie aussi de nos objectifs, de planter des herbiers tout autour de l'île sur la plage afin de retenir encore la terre, le sable.
Pas de gros budget ni de matériel spécifique. Le projet repose sur l'entraide et la récupération. Ils font avec les moyens du bord et récupèrent ce qu'ils trouvent sur place. Une approche que les enfants aiment bien, visiblement, et surtout un projet très apprécié dans cette petite école d'une cinquantaine d'élèves, qui est d'ailleurs candidat au concours Toarif.
Et maintenant, on jette un coup d'œil à ces événements à noter dans les agendas.
Oui, d'abord, la deuxième édition du Festival des Jeux du Fénois, elle aura lieu les 29 et 30 novembre, place Toata et au Parc Paofei. Cet événement est gratuit. Une vingtaine d'associations et d'entreprises polynésiennes seront réunies autour du jeu. Le jeu sous toutes ses formes, jeux de société, sport, réalité virtuelle, tournois, ateliers enfants et animation. Deux jours pour s'amuser.
Et puis, c'est bientôt Halloween et déjà Papeete se met dans l'ambiance.
Avec la fête de Maotini, c'est au marché de Papeete que ça va se passer vendredi et samedi. Au programme, beaucoup d'animations, du dessin, du maquillage, des défilés avec concours de déguisement, de potirons sculptés, des distributions de bonbons. Il y aura aussi une exposition vente de potirons, des dégustations et des idées recettes. Et puis ce concours, il faudra estimer le poids d'un potiron. Voilà plein de cadeaux à gagner. C'est donc vendredi de 9h à 15h et samedi de 9h à 13h au marché de Papeete. Bref, un avant-goût d'Halloween prévu le 31 octobre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur